Le grand face-à-face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
La Russie a changé de posture, c'est notre avis, c'est notre analyse. Elle ne s'arrêtera pas là. Et donc, dans ce cadre-là, le cadre fixé par le président de la République de ne rien exclure permet d'envoyer un message très clair que nous ne lâcherons pas le combat avec les Ukrainiens.
C'était hier matin sur France Inter et je vous salue, Natacha et Gilles. Bonjour à tous
les deux. Bonjour.
Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, qui justifie ainsi les propos d'Emmanuel Macron pour qui l'envoi de troupes pour soutenir l'Ukraine n'est plus inenvisageable. Gilles, est-ce que Macron a eu raison ou est-ce qu'il a isolé la France ou est-ce que c'est un peu les deux ?
Écoutez, pour résumer, je suis assez largement en désaccord avec les propos d'Emmanuel Macron qui sont, je trouve, assez incompréhensibles, mais aussi largement en désaccord avec les critiques qui ont été formulées contre lui, qui sont souvent inconséquentes.
Vous êtes normand, non ?
Donc je commence par Macron et on viendra sans doute au reste après. Le paradoxe, c'est que le sommet a été un vrai succès. Il se tenait au bon moment. 2 ans après l'invasion de l'Ukraine, il a montré un symbole d'unité où, en dépit de son caractère un peu improvisé, il y avait 20 chefs d'État et de gouvernement qui étaient là. Et surtout, il a envoyé un message de mobilisation et de détermination. Et la déclaration du président de la République a transformé ce succès en échec, un peu comme on transforme l'or en plomb, à la fois pour lui-même, parce qu'il est sorti extrêmement isolé, non seulement de ceux qui n'étaient pas là, on a vu les déclarations des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais surtout de tous ceux qui étaient autour de la table, à l'exception des États baltes, isolés par rapport à ses pairs, isolés dans l'opinion. Le Figaro a publié hier un sondage qui montre que 75% des Français sont en désaccord avec cette position. Donc échec pour lui et surtout échec pour l'Union européenne, dont on voit que l'unité est une unité de façade et que la mobilisation est une mobilisation en carton. Pour inverser la formule célèbre du cardinal de Retz, nous sommes entrés dans l'ambiguïté à notre détriment.
Mobilisation en carton quand même, est-ce qu'on n'exagère pas un peu parce que il y a des dizaines de milliards d'euros, il y a des accords de libre-échange céréaliers, enfin agricoles avec l'Ukraine pour le soutenir. C'est pas en carton ça.
Non, ça c'est très concret, c'est ce en quoi ce sommet était un succès. En carton parce que on voit la fragilité, les limites, les ambiguïtés, les divisions sur cette mobilisation.
Natacha, est-ce que dire 75% des Français sont hostiles, ça ne clôt pas le débat ? Est-ce que on attend aussi peut-être un débat démocratique sur ce sujet-là ?
Alors, on attendrait en effet un débat démocratique, mais qui ne se résume pas à un sondage, qui devrait passer par une discussion de fond, notamment chez les représentants, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il serait temps de discuter réellement de la vision que la France a de ce conflit. Ça n'a pas été fait. Mais surtout, il y a plusieurs problèmes posés par la séquence de cette semaine. Le premier point, Gilles l'a dit, c'est la question du message brouillé qu'a envoyé Emmanuel Macron et qui laisse quand même penser que une fois de plus, Emmanuel Macron a voulu faire un coup, ce qui en matière de politique étrangère est encore pire qu'en matière de politique intérieure. On ne fait pas de coup, on ne le fait pas sans en avoir discuté avec ses partenaires et on ne le fait pas sans une précision extrême. Le fait d'être obligé, juste après une déclaration, d'envoyer des conseillers expliquer à tout le monde qu'il n'a pas exactement voulu dire ça, que ça a été mal compris, des troupes, c'est en fait des formateurs, etc. Oui. C'est calamiteux. Et ça montre, en fait, une forme de fébrilité qu'on a vu d'ailleurs toute la semaine ensuite à différents degrés, c'est-à-dire que ce qui me frappe dans les réactions, c'est l'hystérie totale de la part de beaucoup de commentateurs. Entre ceux qui sont en France et en Europe totalement pro-russes, mais ça on les connaît, on les a identifiés, et ceux de l'autre côté qui de toute façon, traque les ennemis de l'intérieur et essaye de démontrer que quiconque n'a pas l'intention immédiatement d'envoyer des armées sur le front est un suppôt de Poutine. Et je pense que ça devient profondément malsain et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Parce qu'en fait, ces déclarations, ces maladresses et cette division, puisque c'est, la division est importante et profonde, notamment avec l'Allemagne, cette division vient d'une fébrilité de la part des Européens qui est liée au fait que le contexte des élections américaines implique un retrait progressif américain, c'est-à-dire, bon, il y a la peur, évidemment, de ce que donnerait une élection de Donald Trump, mais en attendant, Joe Biden est coincé aux entournures et donc est un peu prisonnier des limites qui lui sont imposées par les élus républicains. Et ce flottement, plus, on peut y ajouter le flottement sur le front où l'Ukraine est fragilisée, et est fragilisée parce que, de fait, le soutien militaire ne suit pas suffisamment, c'est-à-dire que les Ukrainiens manquent de munitions, manquent d'armement, et c'est là où il faudrait que les Européens et les Américains soient présents. Mais donc, tout cela fait que les Européens se disent, il faut que nous prenions, et je pense que, en fait, Emmanuel Macron s'est dit, il faut que nous prenions le leadership, et je vais prendre le leadership. Sauf que je crois que c'est une très mauvaise position parce que ça ferait, une fois de plus, que l'Europe paierait pour quelque chose qui relève quand même largement et historiquement de la responsabilité des États-Unis qui doivent, à un moment donné, assumer leur position. Et donc, la position raisonnable, me semble-t-il, c'est d'imposer aux États-Unis, justement, de se comporter de façon responsable et d'assumer leur responsabilité historique.
Gilles, là-dessus, c'est pas une affaire vraiment européenne, la question de l'Ukraine ?
Alors, c'est une affaire européenne, c'est pas seulement une histoire européenne. Natacha dit, il serait temps d'avoir un débat démocratique. Eh ben, ça tombe bien, puisqu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale sur l'accord bilatéral franco-ukrainien, et donc qui va permettre d'avoir le débat plus large sur la situation. Emmanuel Macron a fait un coup sans en avoir parlé à ses partenaires. Le problème est plus grave que ça, parce qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé pendant le sommet, avec un désaccord, mais malgré tout, il est sorti avec cette déclaration. Et enfin, et j'en viens à ce qui est pour moi la question essentielle, et c'est ce pourquoi je disais tout à l'heure que j'étais aussi largement en désaccord avec les critiques formulées par ses opposants. Je prends une déclaration qui m'a frappé, celle de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, qui dit « le meilleur moyen d'affaiblir Vladimir Poutine, c'est de faire la paix ». Dont le raisonnement, je crois, est particulièrement indigent. La question centrale, c'est qu'est-ce qui se joue en Ukraine ? Quelle est la réalité et la nature de la menace que fait peser Vladimir Poutine ?
Sur l'Ukraine et sur nous.
Exactement. Soit on dit que c'est une affaire principalement russo-ukrainienne. Certains, en réalité, pensent ça. Et donc, qu'ils trouvent un compromis, c'est-à-dire, en gros, sur la ligne de front actuelle et sur la Crimée. Soit on dit c'est aussi notre affaire, parce que non seulement on a des valeurs communes avec l'Ukraine, mais pas seulement une question de valeurs, parce que c'est notre intérêt à nous, Européens, et à nous, Français, qui se joue aussi, et que Vladimir Poutine fait peser une menace aussi par ses actions de déstabilisation et ses visées territoriales, sur nous-mêmes. Si on dit ça, et c'est ce que moi je crois, la question est comment fait-on pour empêcher Vladimir Poutine ? Et donc je crois, sur ce point-là, Emmanuel Macron a raison, il y a une question d'abord d'état d'esprit, c'est il faut avoir de la mobilité, une réflexion mobile, c'est-à-dire que la situation a évolué, Natacha l'a dit, et un des points majeurs qui a évolué au-delà des difficultés sur le front, c'est ce qui se passe au Congrès américain sur la livraison d'armes, et sur ce qui ne se passe pas, et en perspective, le risque d'une victoire de Donald Trump. Et donc, notre position à nous a évolué, Emmanuel Macron l'a souligné et il a raison, et elle doit pouvoir évoluer encore. L'essentiel à ce stade, c'est pas la réflexion qu'a engagée Emmanuel Macron, c'est les décisions qui doivent être prises et les promesses qui doivent être tenues, on en est loin aujourd'hui.
Natacha, ce que dit Gilles, c'est aussi du pragmatisme. Vous dites, il faut en appeler plutôt à la responsabilité américaine, mais si les Américains ne sont plus là, est-ce que c'est pas aux Européens de prendre la mesure de la menace ?
Alors, il y a une différence entre prendre la mesure de la menace et ensuite décider ce qu'on fait face à cette menace. C'est pas la même chose. Et il faut aussi savoir prendre la mesure de la menace d'une guerre totale. Parce que, pardon, mais c'est une menace. Donc, je pense
c'est
que...
les propos de Vladimir Poutine sur l'arme atomique, pour vous, c'est pas que de l'escalade verbale.
Il y a de l'escalade verbale de tous les côtés. Et je pense que la déclaration d'Emmanuel Macron participe de cette escalade verbale et me semble extrêmement dangereuse. Simplement, premier point, Gilles a raison de dire, il faut avoir une vision évolutive des choses, en effet. C'est-à-dire que je suis un peu gênée par toutes les considérations qui consistent à dire, puisque nous donnons des chars et que nous allons sans doute donner des avions, que nous sommes en train de réfléchir, ça veut dire qu'il fallait les donner dès le départ. C'est absurde de dire ça. La situation évolue et il faut savoir s'adapter et le mesurer. De même, d'ailleurs, que depuis 1991, la situation a évolué et dire Vladimir Poutine est une menace aujourd'hui, donc il l'était dès 2000.
C'est déterministe.
C'est complètement stupide, puisque c'est aussi la façon dont les Américains ont géré ça qui a transformé Vladimir Poutine, qui était une ordure déjà dès le départ et qui était un chef mafieux déjà dès le départ, en le rendant encore plus dangereux. Et donc, nous sommes dans une situation où cette guerre provoque une menace croissante pour nous, européen, c'est-à-dire qu'elle est en train de nous déstabiliser, elle est en train de faire en sorte que les Russes deviennent de plus en plus agressifs, notamment par des cyberattaques et des tentatives de déstabilisation de nos sociétés. Ça ne veut pas dire que on a eu raison et que les États-Unis, par exemple, ont eu raison d'implanter à toute force des bases de la CIA aux frontières de la Russie, comme ils l'ont fait. J'invite tout le monde à lire cette excellente enquête du New York Times publiée cette semaine, qui raconte comment les États-Unis se sont implantés, la CIA s'est implantée en Ukraine dès 2016 et a formé les renseignements ukrainiens à espionner à grande échelle la Russie. On le savait, mais jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de le dire.
Le grand face-à-face, le duel.
Cinq ans plus tard, je prends aujourd'hui une décision très consciente et réfléchie. Je souhaite me présenter pour un second mandat et je suis très reconnaissante à la CDU de m'avoir proposé aujourd'hui comme candidate principale du Parti populaire européen.
Ursula von der Leyen, qui se déclare candidate à un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne, sa famille politique, les chrétiens-démocrates, devraient remporter le plus grand nombre de sièges au Parlement européen. Mais c'est pas forcément gagné, Natacha. Cette semaine, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes, a annoncé qu'il ne soutiendrait pas celle qui devrait être sa candidate. Est-ce que Ursula a du souci à se faire ?
Alors, en effet, François-Xavier Bellamy a tout simplement fait remarquer à Ursula von der Leyen qu'elle est normalement la candidate du PPE,
Parti
et que
populaire
dans
européen.
Le PPE, il y a les Républicains, et que quand elle vient en France s'acoquiner avec Renaissance qui essaye de détruire les Républicains, c'est pas très fair-play. Bon, mais tout ça est totalement anecdotique, en fait.
Ah, c'est que de la magouille politique, de l'histoire politique.
Je veux dire,
non, il y a du fond, quand même.
La colère des LR est anecdotique. Pourquoi ? Parce que, globalement, Ursula von der Leyen est très largement soutenue par le PPE. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont personne d'autre. Et c'est peut-être là où il faudrait se poser quelques questions. Et de même, il faudrait tout de même s'interroger sur le bilan d'Ursula von der Leyen, sur ce qu'elle a incarné, sur l'absence totale de vision que dénote, par exemple, son programme sur le pacte vert qui a été mis en place sans jamais réfléchir aux conditions de production en Europe, aux conséquences. C'est même pire, les études d'impact ont été freinées parce que ces études d'impact démontraient que ça allait faire baisser la production en Europe de 7 à 15%, disent les échelles les plus faibles. Donc tout cela est tout de même assez problématique. De même, par exemple, que la façon dont Ursula von der Leyen, au fur et à mesure de son mandat, a voulu absolument incarner une dimension européenne qui n'est pas dans ses attributions. Je pense par exemple à son déplacement en octobre 2023 en Israël, dans lequel elle est allée parler au nom des Européens en expliquant, en ne citant que le droit d'Israël à se défendre sans dire un mot de la situation à Gaza, ce qui était évidemment une façon d'outrepasser totalement ses attributions et de mettre en porte-à-faux énormément d'Européens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interrogations à mener sur la vision qu'Ursula von der Leyen a réellement de cette Europe dont on sait qu'elle ne choisit pas entre la dimension fédérale et les États-nations, mais de fait, forcer les choses me semble assez malvenu.
Gilles, Ursula von der Leyen doit-elle se préparer à un second mandat ou ça va être plus compliqué ?
Elle est candidate, elle est sortante, elle doit se préparer, d'autant qu'elle est la favorite. Les Européens vont voter le 9 juin prochain. De tous les enjeux de ce vote pour le Parlement européen, l'enjeu sans doute le plus déterminant est l'élection du président ou de la présidente de la Commission européenne en vertu des pouvoirs dont il dispose. C'est en même temps un enjeu dérivé puisque c'est une conséquence où ça vient à la suite de ce vote. On vote le 9 juin. Ensuite, à la majorité qualifiée, les États membres vont désigner le président de la Commission. Et ensuite, le Parlement européen, à la majorité absolue, va voter sur ce nom. La candidature d'Ursula von der Leyen, qu'on vient d'entendre, elle a été une présidente surprise en 2009. Là, c'est une candidate naturelle et c'est même la candidate favorite pour des raisons politiques. Une que vous avez évoquée, c'est que son groupe, le Parti Populaire Européen, restera sans doute le premier groupe au Parlement européen, mais aussi parce que vous avez 12 chefs d'État et de gouvernement qui sont issus de ce parti-là. Elle est favorite aussi sans doute pour des raisons personnelles, au sens où, en dépit des critiques, et je crois des critiques légitimes sur une gouvernance très solitaire, elle a su faire preuve dans ses relations avec les chefs d'État et de gouvernement d'un certain pragmatisme pour bouger sur des sujets qui étaient importants pour la politique intérieure des présidents et des chefs d'État.
Oui, elle a quand même été présidente de la elle a été présidente de la Commission au moment de la crise du Covid. Il y a quand même eu des avancées en termes de fédéralisme à ce moment-là.
Ça, on va venir, c'est sur le bilan. Et je termine donc sur le dernier point, c'est qu'elle peut donc être réélue, puisque je dis elle est favorite, ce qui, dans l'histoire de la Commission, est peu courant. Depuis Jacques Delors, un seul président a été reconduit. C'est pas le meilleur souvenir qu'on a puisque c'est Emmanuel Barroso, mais Jacques Santer a démissionné, Romano Prodi est retourné à la vie politique italienne et Jean-Claude Juncker est parti à la retraite. À partir de là, trois questions, je crois, qui se posent rapidement. La première, c'est elle est la candidate de qui ? En Europe, elle est la candidate du Parti populaire européen, c'est-à-dire de la droite classique, et la semaine prochaine à Bucarest, elle sera officiellement investie dans le congrès de ce parti. En France, là, c'est plutôt l'inconnu, puisqu'elle n'est pas la candidate, vous l'avez dit, des Républicains. C'est le seul parti du Parti Populaire Européen à ne pas la soutenir, se marginalisant encore davantage au sein de leur propre famille politique. Est-ce qu'elle sera la candidate de Renaissance ? Ce n'est pas totalement, c'est à la fois naturel et pas naturel puisqu'ils ne sont pas issus de la même famille. Deuxième question, c'est elle est la candidate, non pas seulement de qui, mais avec qui, c'est-à-dire avec quelle majorité. Elle a été élue avec une majorité très courte en 2019, 9 voix. Est-ce que cette majorité sera suffisante ? Est-ce qu'elle sera reconduite ? Si elle doit être élargie, à qui ? Et puis, enfin, je termine par là, c'est ce que disait Natacha, elle est candidate pourquoi ? Elle a un bilan, on peut, avec ses ombres et ses lumières. Dans les ombres, il y a notamment ce voyage à Gaza et des déclarations, mais c'est pas la seule. La seule ombre, son entêtement sur le Mercosur en est d'autres, mais elle a aussi un certain nombre de choses à son actif. La question, c'est pour quel projet ? Et là, je diverge de ce que disait Natacha. Je trouve que pour l'instant, elle a plutôt donné des gages sur une droitisation alors qu'elle était sur un projet plus de coalition. Et ma crainte est un peu l'inverse de la crainte de Natacha, c'est que les ambitions environnementales de la prochaine commission soient revues fortement à la baisse.
Le grand face-à-face. Le duel.
Je me réjouis aujourd'hui de voir converger les visions France et Qatar 2030. Qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement, de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi, d'un agenda de défense et de sécurité que nous sommes en train de renforcer, de notre combat commun contre le terrorisme et contre son financement, ou du développement de nos liens dans le domaine du patrimoine, de la francophonie, de l'enseignement.
C'était mercredi, Emmanuel Macron, président de la République, après la réception à l'Élysée de l'émir du Qatar. On a entendu beaucoup d'annonces, là, dans ce qu'on vient d'entendre, mais le montant de 10 milliards d'euros d'investissement, il résonne particulièrement une semaine après les annonces de réduction de dépenses de 10 milliards d'euros par Bruno Le Maire. Gilles, en fait, on n'a plus besoin de les chercher, on les a trouvés, les 10 milliards ?
Oui, vous êtes taquin, parce que vous faites un peu un jeu de bonneteau. Les 10 milliards étaient là, c'est pas exactement...
Il est où ?
Voilà, mais ce sont pas exactement les mêmes. Sur les 10 milliards d'économies budgétaires, il y a parfois, là, un gouvernement est confronté à des situations exceptionnelles. On en a connu quand même il y a peu de temps, la crise financière de 2008-2010 ou le Covid, où il y a des révisions très profondes de la politique économique. Là, on est dans une situation plus classique où il y a une évolution de la situation, ce qui est logique puisque les prévisions de croissance sont bâties à l'été, la loi de finances est votée à l'automne et la situation en hiver ou la situation au printemps peut être différente et donc il y a des ajustements. Là, c'est un ajustement qui est un ajustement relativement important, 10 milliards, ce n'est pas rien et qui pose, je dirais, au moins deux ou trois questions, je vais vite, une question démocratique sur la forme, c'est un décret qui a été adopté et on passe pas devant le Parlement. Je pense que cette critique-là est peu recevable, au sens où on est dans les marges que prévoit la loi organique et donc il n'y a pas de problème. On peut regretter quand même que à la fin de l'année, lorsqu'on a discuté le projet de loi de finances, le gouvernement se soit tenu à des hypothèses qu'il savait irréalistes, et plus encore, il y a un mois, dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, que pas un mot n'ait été soufflé de cette question-là. Mais la question, pour moi, la question centrale, n'est pas la question démocratique, c'est une question économique. Ce choix est symptomatique d'une situation que l'on aborde en position de faiblesse. Parce que on est un des pays de l'Union européenne et de la zone euro dans lequel le déficit et la dette est le plus important parce que lorsque la situation allait bien, que la croissance était plus forte, on a moins réduit le déficit que les autres. Et donc aujourd'hui que la situation est plus tendue dans l'Union européenne avec un retour non pas aux règles précédentes mais à des règles et surtout sur les marchés que l'on est à nouveau sous la surveillance des agences de notation, eh bien il y a une fragilité. Mais si c'est symptomatique, je crois que c'est surtout une décision qui est regrettable, au sens, ou dommageable en tout cas. Je crois une bonne doctrine, une bonne pratique de politique économique, c'est on fixe un niveau de dépense. Et on se tient à ce niveau de dépense. Et après, le déficit s'ajuste à la baisse ou à la hausse. Or, là, eh bien, on intervient exactement dans le cycle, c'est une politique ce qu'on appelle pro-cyclique, c'est-à-dire qu'on va contribuer à la baisse de la croissance. Et par ailleurs, on a parlé sur l'Ukraine ou sur l'agriculture, on ne tient pas les dépenses parce que par ailleurs, on dépense aussi beaucoup.
Natacha, un mot quand même, parce que j'y reviens. Est-ce que dans ce contexte-là, même si c'est un peu du bon taux, 10 milliards qui arrivent du Qatar, on se dit que c'est quand même une très très bonne nouvelle ?
Nous aurons tous compris toute l'ambiguïté qu'il y a à dépendre des investissements d'un pays comme le Qatar. Très clairement, quand Emmanuel Macron explique que nous sommes partenaires dans la lutte contre le terrorisme, c'est oublier que le Qatar finance l'islamisme et les courants qui sont en train de déstabiliser notamment l'islam français. Donc, on se moque du monde. Mais pour revenir à la question économique, je rejoins Gilles sur un point. Oui, ça signifie que nous abordons cette question-là en situation de faiblesse, que la remontée des taux et l'ampleur de la dette qui a été faite ces dernières années font qu'on a un gouvernement qui se retrouve pieds et poings liés. Mais pourquoi se retrouve-t-il pieds et poings liés ? Et je pense que là, il faut prendre un tout petit peu de champ, c'est-à-dire regarder à un niveau un petit peu plus large. Pourquoi y a-t-il cet ajustement de 10 milliards ? Parce que la croissance française, donc, n'est que de 1% et peut encore baisser, puisque les prévisions du FMI pour la période 2020-2024, c'est 0,6 pour la France, c'est 0,4 pour l'Allemagne, alors que c'est 1,7% pour les États-Unis. Ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte que les États-Unis ont une croissance supérieure de deux à trois fois la croissance européenne, suivant les zones. Et ce différentiel, il est absolument essentiel et surtout, il s'appuie sur, il est la conséquence d'une stratégie économique. Et ça rejoint ce que nous disions du bilan d'Ursula von der Leyen. Gilles citait en effet la question du traité de libre-échange. Nous avons une Europe qui a choisi de faire exactement comme après la crise de 2008, c'est-à-dire de continuer dans un libre-échange qui n'en a strictement rien à faire de la question de la production et qui continue à être fondée sur les flux et qui du coup réagit derrière par une rigueur budgétaire quand les États-Unis ont choisi la croissance par une forme de protectionnisme. C'est l'IRA mis en place par Biden. Je vais juste une petite remarque légère. Si nous avions eu, nous en France, 1,7% de croissance sur la période 2020-2024, ça ferait 250 milliards de plus. Vous imaginez? Alors là, je fais un calcul légèrement de mauvaise foi, je l'admets. Mais si vous rapportez ça au degré de taxation en France, ça veut dire que l'État aurait 110 milliards de plus. On peut en faire des choses avec 110 milliards, c'est en tout cas mieux que les 10 milliards d'économies de Bruno Le Maire. Bref, tout cela pour dire que c'est un choix économique global. C'est est-ce qu'on choisit de protéger sa production ou est-ce qu'on choisit l'idéologie et le libre-échange généralisé.
Si ma tante avait des roulettes, ça serait un autobus.
Alors, il manque à votre tante des roulettes.
J'ai admis que c'était légèrement de mauvaise foi, mais la démonstration, le reste de la démonstration est tout à fait juste.